désolé pour ces 40 secondes, Fabienne Synthèse.
Et bonsoir à vous, bonsoir. Alex. À demain, les amis. Oui. Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous. Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mardi 17 mai avec le premier journal de la soirée, celui de Sébastien Eugénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence avec des réacteurs nucléaires français fragiles.
Conclusion du bilan annuel de l'autorité de sûreté nucléaire. Un satisfecit global pour les installations hexagonales, mais avec de très nombreux avertissements, une corrosion problématique, une gestion des déchets insuffisante et la nécessité d'un vrai plan Marshall. On y revient dans un instant. L'autre titre ce soir, c'est la reddition de 265 soldats ukrainiens, les héros de l'usine Azovstal de Mariupol, faits prisonniers par l'armée russe. Le Kremlin s'engage à les traiter conformément aux règles internationales. Nous serons en direct de Moscou. À suivre aussi Jean-Luc Mélenchon qui accuse l'exécutif de vouloir minorer les résultats de la NUP le soir des législatives. La dérive d'anciens douaniers devant la justice, ils étaient aujourd'hui à la barre, compte rendu à venir. Faut-il réquisitionner les généralistes pour soulager l'hôpital. Et puis direction le tapis rouge de la Croisette en fin de journal avec l'ouverture du 75e Festival de Cannes.
Et à 18h15, un jour dans le monde, à Cannes, nous aussi, un festival qui reprend sa place et ses droits. Mais est-ce qu'il sait où il habite, le cinéma mondial? Est-ce qu'il habite en salle ou devant une plateforme sur les canapés? On verra ça ensemble. À 19h20, le téléphone sonne. Une première ministre, alors, oui ben, et alors, c'est la compétence qui compte, évidemment. Mais quand on réalise que ce virage là, beaucoup de pays autour de nous l'ont fait depuis plusieurs années. Quand on réalise à quel point on souligne qu'il fallait une femme à Matignon, quand on entend Elisabeth Borne espérer servir d'exemple, on se dit qu'en France, décidément, les femmes de pouvoir, de la politique aux entreprises restent une exception. Il doit bien y avoir une raison. On en parle au 01 45 24 7000.
France Inter.
Les dossiers sensibles s'accumulent donc sur le bureau d'Elisabeth Borne.
Oui, la première ministre à peine nommée, les urgences déjà se multiplient. Manque de personnel dans les hôpitaux, inflation qui galope et dernière préoccupation en date, l'état du parc nucléaire. L'énergie, dossier brûlant pour la chef de gouvernement en charge de la planification écologique. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a aujourd'hui rendu son rapport annuel devant les députés de l'Office parlementaire des choix scientifiques. Censé aider les parlementaires dans leurs décisions stratégiques. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
Ce rapport de l'ASN pointe plusieurs faiblesses sur les 56 réacteurs français.
Oui, d'abord il y a les problèmes de corrosion découverts par EDF l'an passé. Des contrôles sont effectués sur 12 des 30 réacteurs actuellement à l'arrêt. Le traitement de ce problème prendra plusieurs années. Les premiers résultats de ces contrôles font apparaître que les réacteurs les plus anciens construits sur le modèle de l'américain Westinghouse sont peu ou pas impactés, à l'inverse des plus récents dont le design a été francisé. Si cette hypothèse se confirme, le problème ne serait pas dû au vieillissement des réacteurs, mais plutôt à un problème de conception. D'ici 5 ans, l'État devra dire si on peut prolonger les centrales actuelles au-delà de 50 ans. Dans certains cas, ce n'est pas acquis, pointe le président de l'autorité de sûreté nucléaire.
Et puis, autre point noir, Delphine, la gestion des déchets nucléaires en France.
Oui, on ne peut pas gérer les réacteurs sans penser aux déchets qu'ils émettent, rappelle Bernard Dorojouk, le président de l'ASN, préoccupé par la saturation des piscines où l'on entrepose les combustibles usés à La Hague. D'ici la fin de la décennie, il va falloir choisir entre plusieurs options. Ça n'a rien de nouveau. Les dirigeants politiques en ont connaissance depuis 2010. Mais faute d'anticipation, Orano, l'ex-Areva, prévoit une solution temporaire qui semble inquiéter le président de l'autorité de sûreté nucléaire.
La saturation prévisible à l'horizon 2030 des piscines d'entreposage de combustible usé à La Hague, qui n'a pas été suffisamment anticipée, va conduire Orano à mettre en place des parades temporaires entre 2030 et 2034 pour faire face à ce risque de saturation. Parmi ces parades privilégiées est celle de la densification des piscines actuelles. Ces parades ne présentent pas le même niveau de sûreté qu'une installation nouvelle.
En résumé, si les ambitions nucléaires du nouveau gouvernement, du futur gouvernement se confirment, et notamment la construction de 14 nouveaux réacteurs nucléaires, sommes-nous prêts en termes de compétences? Le président de l'ASN appelle à un plan Marshall pour répondre à ce défi.
Delphine Simon, du service économie de France Inter. Autre urgence pour Elisabeth Borne, constituer bien sûr son gouvernement. Ce devrait être fait dans les prochains jours. Déjeuner de travail aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Et puis, dernière priorité, mener la bataille des législatives en tant que chef de la majorité présidentielle. Réunion ce matin avec les députés à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne qui a souhaité une majorité la plus large possible. On reste en politique, notamment avec les législatives. On en parlait avec ce nouveau coup de gueule de Jean-Luc Mélenchon qui dénonce un tripatouillage électoral à moins d'un mois du scrutin. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
L'affaire est assez technique au départ, mais elle devient politique. Le patron de la NUP, la nouvelle gauche rassemblée, dénonce des obstacles au moment de l'inscription de ses candidats en préfecture.
Oui, au départ, c'est une question de procédure, comme à chaque élection. C'est le ministère de l'Intérieur qui choisit les étiquettes divers, extrême droite, divers, extrême gauche, centriste ou la nuance ensemble, qui, selon la circulaire publiée hier, regroupe l'ensemble des élus de la majorité, quelle que soit la formation politique à laquelle ils appartiennent. Le problème, expliquent les responsables de gauche, c'est que le PS, les Verts, les communistes sont présentés, eux, séparément, sans aucune mention de la NUP, un deux poids, deux mesures inacceptable, s'insurge Jean-Luc Mélenchon.
Dans le classement, il n'y a pas la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Alors on peut dire, ah ben c'est normal, elle n'y est apparue que le 1er mai. Oui, mais alors, dans ce cas, pourquoi ont-ils introduit la nuance ensemble, qui, elle, date aussi du 1er mai? Pourquoi? De manière à pouvoir, le soir du premier tour, minorer la percée que nous aurons opérée.
Avec des résultats fractionnés, nous apparaîtrons mécaniquement moins forts, renchérit Julien Bayou, le chef de file d'Europe Écologie Les Verts, qui signe avec les autres responsables de parti un courrier de réclamation et envisage de saisir la justice. En face, la majorité se défend de toute manipulation. La NUP, précise la circulaire, réunit des candidats investis de manière indépendante par les partis associés à cet accord, ce qui tente à démontrer la volonté pour ces candidats de rester attachés à leur parti d'origine.
Antoine Gignot, les motards, même en colère, vont devoir y passer aussi. Le contrôle technique des deux roues revient sur la table avec le Conseil d'État, les sages qui demandent une mise en place dès le 1er octobre 2022, contrairement au gouvernement qui avait fixé la date au 1er janvier 2023.
Que vont devenir les prisonniers ukrainiens de l'usine Azovstal?
Cette poche de résistance à Mariupol se vide progressivement de ses combattants. 265 d'entre eux ont rendu les armes hier soir. Il en reste encore des centaines dans les sous-sols de l'usine. Et pour ceux qui se sont rendus direction la Russie avant peut-être d'être échangés avec des prisonniers russes. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Sébastien.
Correspondant à Moscou, la Russie qui a diffusé sur les télévisions les premières images de ces prisonniers ukrainiens.
Et des images qui avaient l'objectif clair de montrer que les soldats ukrainiens étaient bien traités s'ils se rendaient. On a vu des bus partir de Mariupol avec des blessés sur des brancards. On les a vu recevoir les premiers soins arrivés à l'hôpital de Novoazovsk en zone contrôlée par les Russes. On a vu également ceux qui pouvaient sortir sur leurs deux jambes se faire fouiller apparemment dans le calme. Le porte-parole de Vladimir Poutine a assuré tout à l'heure que le président russe se portait garant de leur sécurité. Alors il resterait à l'heure actuelle entre 1000 et 2000 combattants dans l'usine. Selon les sources, les Ukrainiens évoquent déjà la possibilité d'un échange contre des prisonniers russes, mais du côté de Moscou, c'est le grand silence. On pourrait assister à une sorte d'enchère autour du sort de ces soldats qui sont des héros pour les Ukrainiens et au contraire des ennemis honnis pour les Russes, des néo-nazis dont certains ici réclament qu'ils soient traduits en justice. Dans les négociations, ces soldats ont une valeur et on pourrait voir ressurgir le cas de Viktor Medvedchuk. Vous savez, cet oligarque ukrainien pro-russe proche de Vladimir Poutine, récemment arrêté et emprisonné par Kiev et qui réclame du fond de sa prison à être échangé contre des prisonniers de guerre.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou. La Cour pénale internationale, elle envoie en Ukraine sa plus grande équipe d'enquêteurs jamais déployée. 42 enquêteurs et experts seront bientôt déployés dans tout le pays afin d'enquêter sur les crimes de guerre pendant l'invasion russe. En Iran, ce sont les images de deux ressortissants français qui ont fait la une de la télévision d'État aujourd'hui. Probablement les deux membres du syndicat Force Ouvrière récemment arrêtés à Téhéran, Cécile Coller et son compagnon. Il leur est reproché d'avoir tenté de provoquer des troubles en entrant en contact avec des syndicats d'enseignants. On revient en France avec le procès des douanes. 6 anciens chefs du service des renseignements des douanes, dont celui du Havre, sont jugés depuis la semaine dernière pour un trafic de café contrefait, soupçonnés d'avoir artificiellement gonflé leur chiffre de saisie, le tout en pactisant secrètement avec un informateur très proche des trafiquants. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Le tribunal correctionnel de Paris s'est penché aujourd'hui sur les méthodes douteuses des douaniers et de leur informateur vedette ambiance tendue.
On fait comme si on découvrait les méthodes du chef des opérations douanières du Havre, ayant monté un système totalement occulte. Mais je n'ai rien occulté, tout était clair, je n'ai rien caché. Pascal Schmitt, costume gris, s'énerve à la barre. Oui, il a facilité le transit et le dédouanement de containers de marchandises de contrebande que sa direction parisienne voulait saisir. Des cigarettes, puis du café de contrefaçon sous la marque L'Or Maison du Café. Plus de 70 tonnes au total. La location d'un entrepôt payé cash. Et puis, il y a ses relations avec l'aviseur, l'informateur vedette du service de renseignement des douanes, Zoran Petrovic, logisticien hors pair. C'est mon ancien chef qui me l'a présenté en 2011. Ça a duré un quart d'heure. On m'a juste dit, c'est ton nouvel ami. Au départ, je n'avais même pas sa vraie identité. Au fil des affaires, des saisies spectaculaires, Zoran Petrovic devient incontournable. 5 ans de coopération. On s'appelait le jour, la nuit, raconte Pascal Schmitt. Un jour, l'informateur lui offre une montre Chopard magnifique. Ça peut valoir plus de 10 000 euros, il le sait. Il réfléchit un quart de seconde et accepte. Il sait que ça peut passer pour de la corruption pure. Il est censé remettre une Rolex à un autre informateur pour service rendu. Elle a été saisie par les gendarmes avant même d'être rétrocédée.
Emmanuel Leclerc en direct du Palais de Justice de Paris. France Inter s'en fait l'écho depuis des jours. Les hôpitaux français sont au bord du gouffre, inquiets de ne pas pouvoir assurer leur mission cet été, obligés pour certains de fermer leurs urgences le week-end ou la nuit. Tout cela à cause d'un manque historique de personnel. Alors face à cette situation alarmante, certains demandent la participation des médecins généralistes. Seuls 40% d'entre eux réalisent aujourd'hui des gardes en hôpital. Frédéric Valtoux, le patron de la Fédération hospitalière de France, veut obliger donc les médecins libéraux à en faire plus.
On demande à ce que la charge soit répartie entre tous les professionnels de santé. Aujourd'hui, la crise du système de santé fait qu'il n'y a pas que l'hôpital qui est en crise. La médecine de ville aussi, et on le sait. Il ne s'agit pas d'interdire des vacances à qui que ce soit. Il s'agit de dire entre juillet et août, il y a 8 à 9 semaines, on peut chacun peut-être se répartir les vacances de manière à ce que tout le monde dans un même territoire, dans une même ville, ne parte pas en même temps en vacances. Il n'y a aucune raison que ces périodes de tension extrême ne reposent que sur les services d'urgence et les services hospitaliers.
Réaction en face du principal syndicat des généralistes, MG France, Jacques Battistoni en est le président, et pour lui, la réquisition n'est pas la solution.
Cette mesure est totalement impraticable. Je ne vois pas comment on peut contraindre les médecins généralistes à être de garde, en particulier pendant l'été. Le principal enjeu aujourd'hui et ce qui fait que les hôpitaux sont surchargés souvent, c'est parce qu'il faut organiser la continuité des soins, c'est-à-dire une forme de garde dans la journée pour qu'il n'y ait pas de gens qui ne trouvent pas de solution en dehors de la médecine de ville et qui, de ce fait-là, ne soient pas obligés de se diriger vers les hôpitaux. Ça, c'est ce que nous essayons de mettre en place. C'est ça qu'il faut faire. On n'a pas besoin d'avoir un médecin de garde et un médecin généraliste de garde toute la nuit. Ça n'a pas de sens et ça ne correspond à aucun besoin de santé. C'est dans la journée que le problème se pose et c'est ce à quoi on est en train de s'organiser pour le faire.
Voilà, Frédéric Valtoux et Jacques Battistoni, propos recueillis par Victor Dolande.
Allez Sébastien, terminons donc en beauté avec des stars et du soleil.
Oui, vous l'aurez deviné, ouverture officielle ce soir du 75e Festival de Cannes. Ce sera dans moins d'une heure, mais notre spécialiste, on l'entend déjà, des tapis rouges, nous attend sur place. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
En direct des marches du Palais du Festival, les festivaliers qui ont commencé cette journée d'ouverture, Corinne, avec un film culte de la nouvelle vague.
Oh là là, immense émotion tout à l'heure à 14h au moment de la projection de La Maman et la Putain de Jean Eustache, film culte en noir et blanc d'une durée de 3h40 avec Jean-Pierre Léo et Françoise Lebrun, inoubliable Véronica dont le film qui a eu des mots très beaux. Oubliez tout ce que vous avez entendu jusqu'ici sur le film et regardez-le avec des yeux tout neufs. À sa première présentation en 73 ici à Cannes, ce monument de la nouvelle vague avait suscité, on s'en souvient, beaucoup de controverses, sujet trop libre, insolent, immoral. Il avait remporté sous les sifflets un grand prix spécial du jury avant quasiment de disparaître de la circulation. Cela fait plus de 40 ans qu'on ne le trouvait plus à la location, à la vente. Il vient tout juste d'être restauré et c'est la première fois que Boris Eustache, l'héritier et les films du Losange sont venus présenter au public cette nouvelle version. Un événement véritablement pour les amoureux du cinéma qui sont venus du monde entier exprès pour voir le film. Moment beau et simple, un peu à l'écart du tapis rouge officiel que vont fouler dans quelques minutes les membres du jury de Vincent Landon et l'équipe du film de Michel Hazanavicius, coupé, visible dès ce soir dans tous les cinémas. cinéma.
Voilà, Corinne Pellissier en direct du Festival de Cannes qui sera officiellement ouvert à 19h par Virginie Efira.
Et merci beaucoup Sébastien Logénie. À tout de suite bien sûr dans Un jour dans le monde avec une histoire incroyable, celle de ce couple d'Indiens qui font un procès à leur fils parce qu'il ne leur a pas fait de petit enfant, figurez-vous. Ce soir nous sommes à Cannes, tiens nous aussi. On va regarder un petit peu justement quel est l'état du cinéma mondial à l'ouverture de ce festival, le premier post-pandémie. Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne, on s'en fiche, donc la première ministre soit une femme, c'est vrai qu'on s'en fiche, mais en fait pas tant que ça, figurez-vous. On fait semblant d'en faire un non-sujet, bien sûr que seule la compétence compte, mais nous restons quand même parmi les mauvais élèves de l'Europe. Après tout, il a fallu passer par un MeToo politique aussi, qui n'est pas si vieux. Ça nous dit peut-être des choses sur nous, et c'est en tout cas le thème du téléphone sonne ce soir au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel, s'il vous plaît.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Élodie Calac, bonsoir. Élodie, encore un temps très très estival pour demain.
Oui, bonsoir à tous. Oui, beaucoup de soleil demain, à peine quelques grisailles près de la Manche. Sur l'ouest de la Bretagne, toujours une perturbation avec des nuages et quelques gouttes possibles. L'après-midi, ça deviendra chaotique hein, sur le nord-ouest, avec un risque d'averses et d'orages parfois costauds, un peu de grêle possible. Et ça tournera aussi à l'orage de l'Aquitaine aux Charentes.
Et sinon, encore plus chaud même.
20 à 28 degrés attendus près de la Manche, 23 à 31 en Méditerranée. Il fera 23 degrés à Cannes, souvent 30 à 34. 4 degrés ailleurs avec 31 à Paris, à Strasbourg, à Angers, 32 à Bourges, 33 degrés à Lyon et à Montauban, jusqu'à 34 à Bordeaux, Toulouse, 34 aussi à Montélimar où on avait 33 degrés déjà cet après-midi. Et puis il faudra attendre samedi pour avoir des températures plus agréables au nord alors qu'il fera encore très chaud au sud.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure après 19h.